actuellement en ce moment, et donc 0-0 pour ces trois matchs, et donc on pourra en parler dans les prochaines semaines. Retrouvez-nous donc la semaine prochaine pour une émission avec notamment le AB qui viendra intervenir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis je vous dis à la semaine prochaine.
Jusqu'à 22h. Ce soir, Bess nous parlera de Sydney Prescott, l'héroïne des Scream. Julien reviendra sur les écrits de Manchette pour le magazine Metal Hurlant. Et on écoutera l'interview de l'écrivain, chercheur, youtubeur Thomas Durand qu'on avait rencontré aux dernières Utopiales. On commence en musique avec la chanteuse japonaise Haru Nerumi, un extrait de la compilation Japonisme qu'on peut télécharger sur la page Bandcamp du label Specific Recordings.
her, you bitch! I know my value. Anyone else's opinion doesn't really matter. Mary Poppins, practically perfect in every way. Spoilers. Il m'aura fallu regarder pas moins de 4 films pour écrire cette chronique. Oui, oui, carrément, une quadrilogie. Alors, des sagas avec des héroïnes, il y en a quelques-unes. Mais non, aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de Ripley ni même d'Alice. Aujourd'hui, on décolle pour Woodsboro, aux États-Unis, une petite ville dans laquelle vit Sidney Prescott, l'héroïne de la saga Scream réalisée par Wes Craven. Alors, évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur cette série de films. Comment elle interroge les codes des films d'horreur, comment elle a remis le slasher à la mode, comment les dialogues sont méta, mais aussi comment le troisième volet, seul non écrit par Kevin Williamson, est à chier. Mais passons. Intéressons-nous à celle qui traverse la série, Sidney Prescott, interprétée par Neve Campbell. À Woodsboro, Sidney est une ado presque comme les autres. Depuis le viol et le meurtre de sa mère un an auparavant, elle s'est assez renfermée. Heureusement, elle peut compter sur sa bande d'amis et son père. Mais tout bascule quand des meurtres atroces surviennent et qu'on comprenne que Sid est au centre de l'affaire. Alors, elle n'aime pas les films d'horreur, hein, c'est con, mais elle est en plein dedans. Mais n'allez pas croire qu'elle ne sait pas se défendre. Hein. Oh non, elle est du genre à puncher une connasse de journaliste ou d'avoir les ovaires bien accrochés quand le tueur psychopathe l'appelle au téléphone. Au combat final, elle se défend, joue avec ses ennemis jusqu'à les tuer elle-même. Mais comment évoluer avec tous ces traumas ? Dans le second volet, notre héroïne est à la fac quand les meurtres recommencent. Elle pensait avoir retrouvé une vie normale, ben c'est raté, tiens. Mais Sid est fidèle à elle-même, une véritable combattante. Ce qui l'interroge, c'est la notion de destin. Est-elle vouée à être une victime toute sa vie ? Elle décide finalement que non. Et que croyez-vous qu'il arriva ? Elle a toujours les ovaires qui assurent et tue elle-même les psychopathes après une sacrée baston. Vous vous dites une fois, deux fois, mais à la troisième ? Ben Sidney se dirige vers l'âge adulte, et cette fois on sent bien que toute son histoire lui pèse. Elle vit avec un chien, des alarmes et des verrous sous un faux nom dans un endroit tenu secret avec son père. Oui, une fois, deux fois, on finit par prendre ses précautions. Et puis il y a les cauchemars à propos de sa mère, car finalement toute l'histoire est à propos de Maureen Prescott. Sid a l'air plutôt triste et résignée, mais elle met son temps à profit en travaillant pour une ligne téléphonique femme en détresse. Si c'est pas de l'engagement ça ? Et quand les meurtres recommencent, elle sort de sa cachette pour se battre. Et comment sont ses ovaires dans ce troisième volet ? En Kevlar. Non, elle ne renonce pas. Elle se bat, montre son intelligence et sa ruse pour au final aller à la bagarre et se faire justice elle-même. Puis la voilà devenue adulte. Sidney a décidé de sortir complètement de sa réserve dans le quatrième épisode. Elle, qui ne voulait pas être à la une des journaux, fait maintenant le tour des plateaux télé pour vendre son livre. Fini l'ado en chemise de nuit de communiante, place à la femme active en robe et en talons. Elle retourne même à Woodsboro assurer la promo de son bouquin. Et que croyez-vous qu'il arriva ? Oui, oui, des meurtres. Et que croyez-vous qu'elle fit ? Elle se bat. Et pensez-vous que je ne maîtrise pas du tout les concordances de temps ? Vous avez raison. Bref, si dans les 3 premiers films, Sid était la victime en chef, elle est maintenant perçue comme annonciatrice de mort. Partout où elle passe, les proches trépassent. Elle devient un peu la méchante du film malgré elle, dans ce sens. Mais en tout cas, c'est une constante chez elle. Elle ne baisse pas les bras, va à la bagarre. Elle a les ovaires ultimes. Et tuera le méchant du film, bien évidemment. Avec cette quadrilogie, on suit une femme de l'adolescence à l'âge adulte. Victime toute désignée, traumatisée par la mort de sa mère puis par d'innombrables meurtres, obligée de se cacher, la vie de Sidney Prescott, c'est plutôt de la merde. Ceci explique peut-être cela. On ne la voit pas beaucoup rire, c'est pas la grosse poilade avec elle. Cependant, je la veux bien pour assurer mes arrières, hein, parce que quand il y a baston, elle est présente. Elle est intelligente, elle est rusée, elle est super courageuse. Et est-ce que je vous ai parlé de ses ovaires ? C'est une héroïne au caractère constant sur 4 films tout de même. C'est un personnage cohérent. Elle n'est pas badass, ce n'est pas une super-héroïne. Elle fait des erreurs, elle a des failles, des traumas, mais c'est une boule de courage incroyable pour surmonter tout ça. Et à la fin, c'est elle qui vous colle une balle entre les deux yeux. Et comme on n'arrête pas Sidney Prescott, et qu'il vienne d'annoncer Scream 5, on va écouter Unstoppable de Sia.
Till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time.
Aujourd'hui, je vais vous parler de culture populaire. Mais attention, comme je sais que j'ai affaire autour de moi, et une pensée plus spécialement pour Romain et Jean-Hugues, à une bande d'olibrius qui aiment la précision, je vais articuler cette chronique autour des années 1978-1982. Nul ne saurait être parfait. Mais la précision fait sens lorsqu'il faut aborder la culture populaire. Alors, pour Romain et Romuald, 1978, c'est plutôt ça. Et 1982, plus pour Romain, mais encore pour Romuald et pas encore pour Bess, c'est ça.
C'est un manège enchanté, qui fait rire et chanter, y'a rien de mieux pour s'amuser.
Nous sommes aujourd'hui en 2020, et si vous retranchez 25 années à celle que nous traversons, vous retombez en enfance, c'est-à-dire en 1995, sauf pour Jean-Hugues, qui croyait s'en sortir comme ça. Et que se passe-t-il en 1995, outre que Lionel Jospin se retire de la vie politique? Eh bien, Jean-Patrick Manchette, le chantre du néo-polar, disparaît un 3 juin.
Donc Jean Pat est mort depuis 25 ans et grâce à tout plein de gens et d'éditeurs, on le remet à l'honneur sur les tables des librairies qui ont enfin pu rouvrir leurs portes si elles n'ont définitivement pas fermé. C'est ainsi que la table ronde publie un énorme pavé de ses correspondances, reçues mais pas encore lues, donc pas pu en savourer les bonnes pages, que Wombat sort Les yeux de la momie le 25 mai, ce qui représente l'intégralité des chroniques cinéma de Manchette parues entre 1979 et 1982 dans Charlie Hebdo, que la série noire de Gallimard ressort en grand format, sinon c'est moins cher, l'affaire Angustro, et que Dupuis remet en circulation les brillantes adaptations à tout point de vue, adaptations BD de Max Caban et Doug Headline, des principaux autres romans de l'auteur. Et que si vous ne l'avez pas lu, Manchette, et que si elle, les BD, vous ne les avez pas découvertes, il faut vous précipiter avec un max de masques et de gel, bande d'hydroalcooliques que vous êtes, chez votre libraire préféré avec un E, parce que j'en ai envie. Et n'oubliez pas, aujourd'hui plus qu'hier, il est interdit de se lire des bandes dessinées en rayon en mettant ces grosses paluches vérolées sur les couvertures plastifiées, vu que l'ami Covid, loin de faire la tête, fait la fête.
L'ami Cahouette me fait la tête.
Nicolas Le Flahec est à Jean-Patrick Manchette, ce que Nathalie Benat est à Dashiell Hammett. Je pourrais m'arrêter là après ces rimes brillantes et cette assertion non moins brillante. Et puis, je serai dans la tonalité de Play It Again Dupont, sans majuscule au D et avec un T au final. Mais qu'est-ce donc que ce bouquin et pourquoi avoir fait toutes ces circonvolutions pour en arriver là ? Patience, cher ami auditeur à l'éjaculation culturelle précoce. On écoute un extrait de Casablanca.
Play it once, Sam. For all time's sake.
I don't know what you mean, Miss Elsa.
Play it, Sam. Play as time goes by.
Eh bien, le bouquin, il s'agit ni plus ni moins que la compilation des chroniques ludiques de Jean Pat, alias le général Baron Staff, dans Métal hurlant entre 1978 et 1980, sous la haute férule mais pas pustulante de Jean-Pierre Dionnet. Hasard des événements historiques et éditoriaux, la revue prestigieuse, décalée et dégoulinante de science-fiction, pour qui en avait sonné le glas, est sur le point de renaître de ses cendres à l'heure où je vous parle. Je m'empresse de modérer votre enthousiasme. Non, Jean-Patrick Manchette n'est pas revenu. Mais non, mais si, bonsoir. Et tout ça ? C'est bien dommage. Toujours est-il que ce petit bouquin édité à la table ronde est une excellente surprise pour tous les jeunes cons qui n'ont pas pu lire ses chroniques en temps et en heure. Jean-Patrick Manchette y est drôle, caustique, pointilleux, énervant, assommant, bref, il est joueur. Il y a du déproche dans sa tonalité. C'est un gars qui sait ce que veut dire jouer et qui a d'autres flèches dans son carquois que celle qui crie « Ah bah la France !» Faut le lire quand il détaille dans la Redoute de Roubaix la rubrique « Jeu » pour voir l'état du truc en France et qu'il le compare outre-manche. Faut dire que Jean-Patrick est plutôt tendance outre-manchette quand il cause War Games. Au risque de surprendre quand il fourre là-dedans du Donjon et Dragon. Mais c'est un virtuose quand il s'attaque au...
Le mastermind, ça se corse. Avec l'hyper mastermind, il faut trouver la place des pions, leur couleur et leur hauteur. Mais alors, le comble, c'est l'électronique. Avec l'électronique mastermind, on joue non seulement contre un ordinateur, mais aussi contre les autres. Mastermind, les nouveaux défis. C'est dingue, non ?
Je disais donc, avant d'être interrompu par la pub, que Jean-Patrick Manchette est un virtuose quand il s'attaque au mastermind. D'ailleurs, je n'avais pas le souvenir que le premier de la classe sur la boîte ressemblait comme deux gouttes de thé au mentaliste béat. C'est du bonheur que de lire ses avis tranchés sur Star Wars, là on est loin du jeu, et sur Risk. Je vous avais dit qu'on était loin du jeu. Et puis, il y a ces longues digressions sur Starship Troopers et cette admiration pour diplomatie. Bon, le marché du jeu à l'époque ressemblait fort en France au néant. Remarquez qu'on s'amusait d'un rien. Jean-Patrick Manchette cause de nombreux jeux à la couverture psychédélique qui ont disparu des radars. À titre personnel, j'aimerais bien mettre la main sur le libido, sorte de strip poker entre amis, surtout féminines, où selon une certaine notation, on se dessape au royaume de la reine mère, gauche. Mais d'autres aussi, comme Organized Crime, plus polar que la masse ressortie par l'auteur de science-fiction et d'heroic fantasy, dont ils semblent raffolés avec leurs pions cartonnés prédécoupés qui vont partir à l'assaut de cartes traversées d'hexagones. Et, qui dit hexagone dit Renault, qui dit des proches dit Coluche, qui dit 1980 dit élection présidentielle, et c'est l'heure d'aborder la dernière ligne distordue de ma chronique avec une bande dessinée uchronique qui aurait pu figurer dans Métal hurlant si elle n'était pas empreinte d'un fluide glacial.
Bon Coluche, comment est-ce que vous expliquez que votre candidature rencontre de tels échos? Des comités se forment un peu partout, on ne parle que de vous dans les journaux, dans les bistrots, etc.
Ben, ça vient du fait que ceux qui consomment de la politique, ils s'emmerdent tellement à la consommer, parce qu'elle n'est pas bien foutue, qu'aujourd'hui, il y a plus de gens sûrement prêts à voter pour moi qu'à voter pour un autre, parce qu'au moins, moi, je veux pas être élu, quoi. J'ai cet avantage. Alors que les autres, ils veulent être élus, et puis on sait bien pourquoi ils veulent l'être, quoi. Alors ça nous intéresse pas des masses.
Je veux parler, bien sûr, de Coluche président, de Fabrice R. et de Jean-Marcel R. R. E2RE, une bande dessinée donc écrite par deux frères et qui ne manque pas d'air. Notons d'emblée le postulat débile. Coluche s'est présenté en 1981 et a éclaté Gigi avec classe, ce qui a valu à François Mitterrand de se plonger dans Star Wars et de parler comme un maître Yoda dont il n'a que la carrure physique.
Très bien, je vais essayer.
Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai.
On trouve dans cette joyeuse gaudriole bien franchouillarde ce qui fait le sel des romans de Jean Marcel chez Bûcher Chastel. Un humour très forcé. Jusqu'où ira-t-il? Assurément loin. Comme dans une BD de Margerin, on cherche le détail. On trouve, parfois on rate. Alors on reprend depuis le début. On s'amuse d'un banquier à l'Astérix avec à la place du barde Jean-Marie Le Pen ficelé. On repère les bidochons. Le dessin est un hommage à la bande dessinée de l'époque. Et donc, je le répète, à la culture geek vintage. Le scénario, souvent, est drôle et taillé à la serpe. Parfois, il est jouissif. Il est rarement dépressif. Aux annonces de Coluche président, les râleurs répondent toujours de la même façon. Le dessin de Fabrice R. prend parfois les tournures d'Anibar délicat. On apprécie ce Mickey de Coluche en salopette bleue et t-shirt jaune, avec sa coupe à la princesse Leila. Tiens, re-Star Wars.
Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Des tas de raisons, des tas mères, mettraient en situation l'assassinat de celui qui était devenu malgré lui le président honni des Français, avec son absurde et sa gaudriole, son franc-parler et son envie de ne rien faire, d'attendre sagement, confiné et déconfit. Les deux auteurs, adeptes du pas P de travers, en ont décidé autrement. C'est entre Placide Musso et Dominique Manotti. C'est noir et désespérant. C'est comme la politique d'aujourd'hui, mais c'était hier et on l'a oublié. Alors vous, n'oubliez pas d'avoir du reste au cœur. Manchette et Coluche sont morts. Des proches aussi, mais c'est moins le sujet du jour. Il reste les écrits et les affabulations. Lisez tout ce qu'a entrepris pour l'un Nicolas Le Fleig. Play it again Dupont à la table ronde. Et les deux R chez Fluide Glacial avec Coluche président. Les années 1978-1982, c'était le bon temps. Celui où on pouvait s'embrasser, surtout en janvier. Coluche ne changera pas la France. Et les jeux en hexagone ont foisonné malgré tout. Et Jean-Patrick Manchette, n'est-ce pas Renaud?
Il s'embrasse au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passe les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des focus. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneaux. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leur Côte-du-Rhône et leur Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à s'étarer. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers dernier modèle de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindons marrons. Être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.
Imaginaire, toujours sur les Utopiales pour cette dernière journée, nous avons la chance de croiser Thomas Durand. Ça faisait un bail qu'on s'était pas vu, c'était en 2013. Thomas, tu es auteur, édité par Feu, la maison d'édition Locomodo, pour de la fantasy burlesque, une série en deux tomes. Tu étais aussi auteur de pièces de théâtre. Tu es aussi connu maintenant sous le pseudo de Assamondax. C'est sur ton émission YouTube, La Tronche en Biais, dont tu es co-créateur. En 2016, d'ailleurs, tu as reçu le prix Diderot pour l'initiative culturelle. Alors, ton parcours, parce que ce sont deux genres qu'on associe peu, même si la science-fiction est une fiction explicable par la science, comment est-ce que tu en es arrivé là ?
Je suis arrivé à Locomodo parce que j'écrivais de la fantasy depuis très longtemps, en fait, depuis mes 15 ans. J'ai lu Tolkien, mm-hmm. Voilà. J'ai vu faire pareil, bon, évidemment, comme beaucoup de gens. J'ai écrit des trucs absolument navrants. J'ai aussi écrit de la SF très ambitieuse et très mal écrite. Et puis j'ai lu Pratchett. Et là, j'ai compris qu'on peut faire un peu différemment. Entre les deux, j'ai écrit un peu de théâtre parce qu'à la fac, j'étais dans une asso de théâtre. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est plus les dialogues souvent. Donc, il y a beaucoup de dialogues dans ce que j'écris, j'aime bien. Et j'ai fini par écrire donc ce roman de fantasy qui s'appelle Premier souffle dans les énigmes de l'aube. Et je l'ai écrit cette fois parce que bon, j'étais petit machin, puis je l'ai développé. Et donc, j'ai fini par trouver une maison qui en voulait bien parce que c'est pas facile de se faire éditer en fantasy quand on est un auteur français inconnu. Donc je compatis avec tous les gens talentueux qui malheureusement vont avoir des problèmes dans leur parcours, que c'est compliqué. Et même quand on y arrive, la maison peut couler. Donc la maison a coulé en 2013. Et quand vous commencez une série de fantasy qui est prévue pour 5, 6, 7, 8 tomes peut-être, avec un univers peut-être déployé un peu comme le Disque Monde avec d'autres personnages à d'autres époques, ce qui me plaît bien d'imaginer, c'est un peu démoralisant. Et en 2014, j'ai créé La Tronche en Biais avec mes collègues. Et ça a fini par prendre beaucoup, beaucoup de temps, en fait. Donc, j'ai arrêté la science. J'étais chercheur à l'époque où j'étais à Angers, où je t'ai croisé. Et maintenant, je me consacre à la vulgarisation scientifique dans l'Astec, qui est une asso, et dans La Tronche en Biais. Et du coup, j'ai eu peu de temps à consacrer à l'imaginaire, d'autant que j'ai quand même sorti 4 ou 5 bouquins en 5 ans. Et maintenant, j'ai une maison qui m'appelle. Bonjour Thomas, j'aurais fait un livre avec toi sur la zététique. Alors, quand on m'appelle... Et quand de l'autre côté, je galère pour avoir la simple réponse de la talente qui ne répond même pas au mail. Mais alors, je sais, c'est compliqué, ils reçoivent beaucoup, beaucoup de manuscrits. C'est très compliqué et c'est très frustrant pour eux. Mais bon, pour l'auteur, c'est pire. Hein. J'ai renoncé à me battre, en fait. Et quand Roland Lehoucq, que j'ai croisé, qui m'avait invité à Florence, professeur d'astronomie, pour parler un peu de ça, m'a dit, mais viens aussi aux Utopiales, tu viennes... Parce que... Il y a beaucoup de place laissée aux sciences, et c'est étonnant à quel point il y a beaucoup de sciences dans ce festival, et donc c'est une très bonne nouvelle. J'ai dit, qui aurait dit non à Roland Lehoucq ?
Personne.
Donc je suis venu avec grand plaisir, et du coup, ça m'a rappelé toute cette grande époque où j'aimais bien faire de la fantasy. Et donc j'ai croisé des éditeurs, et je vais réessayer. Donc, je vous promets que je vais réessayer de faire ressortir ces vieux romans ou d'autres dans le même univers, parce que ça me manque, parce que les. Il n'y a pas de contradiction entre le fait d'aimer des choses fausses et fictionnelles et le fait de ne pas vouloir que les gens croient des choses fausses pour être en vrai. Au contraire, c'est même parfaitement cohérent d'aimer la fiction pour la fiction, de la valoriser pour ce qu'elle est, de la fiction qui aide à réfléchir sur le réel mais qui n'est pas le réel. Ça évite que les gens confondent les deux. Or, la post-vérité est une post-fiction.
Alors, tu parlais de ta série, donc Les Énigmes de l'Aube, donc de la fantasy burlesque qui doit beaucoup à Pratchett.
Tout à fait.
Et tu parlais de faire une longue série. J'aimerais que tu m'en dises un peu plus. Est-ce que tu vas faire une longue série où le même personnage pendant 18 tomes va vivre des aventures particulières, ou alors c'est un univers étendu que tu as décidé de créer ?
C'est plutôt... enfin, d'abord, j'aimerais finir l'arc de Aniel, qui est la petite héroïne du tome 1.
J'ai loupé l'élément essentiel de cette question, c'est que tu fais de la fantasy burlesque, certes, mais engagée.
Engagée dans le sens où je l'équipe pour ma nièce à la base. Quand on est allé voir Harry Potter, j'ai dit, ça m'a plu cette idée d'école de magie. Étant gamin, j'avais beaucoup aimé toute cette histoire-là. Je voulais imaginer une école de magie un peu différente, mais avec une héroïne pour le coup. Voilà. Et dans un monde où la magie est fréquente, il y a plein de magiciens qui font plein de trucs, les gens du commun naissent avec des dons, c'est un peu comme dans leur first. Mm-hmm. Tout le monde n'a pas un don, mais beaucoup de gens en ont. Voilà. Et elle, à 9 ans, elle découvre, parce que c'est la brisure, à un moment donné, le don se révèle, elle peut renforcer la magie autour d'elle. Alors, elle fout le bordel, parce que la magie, c'est quand même précis. Et donc, quand elle renforce le don de son père, vous l'avez regardé, c'est le chapitre 1, il se passe des choses qui ont de graves conséquences, et du coup, les gens râlent un peu. Il faudrait que ta fille apprenne à faire quelque chose, elle va faire le bordel. Envoie-la à l'école de magie. Elle, elle a aucune envie d'y aller. C'est la grande ville, c'est loin. Puis la ville, ça pue, elle a pas envie d'y aller. Et puis on rajoute que, ah, mais en fait, c'est une école de magie, donc c'est du sérieux, donc ce n'est que pour les garçons. Donc elle dit, bah, du coup, j'y vais. Voilà. À 9 ans déjà. Et donc elle y va, mais elle est pas très bonne. Elle n'est pas bonne élève, ça se passe pas très très bien. Personne ne l'aime, c'est la fille, machin. Donc bon. Et donc en fait, c'est comment une petite gamine qui est pas faite pour ça va apprendre à aimer apprendre, en fait. Et à se respecter un petit peu. Et donc j'aurais fini cet arc qui. Bon, j'en ai écrit 4. C'est prévu pour 6 ou 7. Je sais pas comment. Déjà le 5, il est en chantier depuis des années, donc j'ai arrêté, hein, mais il faut que je le fasse après. Voilà, donc avec cet arc assez complexe, même, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être voyage dans le temps. Bon, je l'ai pas dit. et c'est pas résolu. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Et parce que c'est un univers qui est très très vieux. C'est comme si nous, on avait une histoire écrite de 50 000 ans. Donc c'est vieux, hein. Et donc j'aurais bien un peu exploré aussi d'autres époques qui sont évoquées dans l'histoire, mais l'époque il y avait des cités volantes, hein. Elles sont toutes par terre maintenant, mais à l'époque elles étaient volantes. J'aimerais bien explorer un peu, voilà, faire un univers étendu à la Pratchett, si j'y arrive, avec aussi peut-être des novellas, voyez, des trucs. Je ne m'interdis rien, mais je promets rien non plus. Mais juste j'aimerais quand même au moins finir l'arc de Aniel, l'amener à son terme. J'ai des idées maintenant, comme disait George Martin, avoir des idées c'est facile, j'en ai 15 par jour. Les écrire c'est plus compliqué.
On va passer un petit peu sur ton côté Tronchambier, à Serment d'Axe. Comment est-ce que tu as fait des études de sciences, mais comment est-ce que tu es venu l'idée de faire cette chaîne YouTube? Quelle était l'ambition de cette chaîne YouTube?
J'avais pas envie.
Bonne réponse. On passe à la suite.
C'est Bled Tapas, mon collègue musicien, dont la musique de fin, ce sera une des siennes.
D'accord.
Qui, lui, a une chaîne qui s'appelle Bled Tapas, le 7 d'arrêt. Bah, il parle de musique, il est musicologue, il a les maîtrises là-dedans. Il a un groupe. Voilà, bah, il a ouvert sa chaîne en 2012-2013. Et donc, il allait à des soirées entre youtubeurs. Voilà, c'était après Bruce, etc., c'était la deuxième vague des vulgarisateurs. Donc, bah, une effervescence, on voulait se voir les uns les autres parce qu'on aimait bien ce que les gens faisaient. Donc moi à l'époque j'étais pas dans ce petit monde là et il leur a parlé des éthiques parce que moi ça faisait des années que j'en parlais et les gens m'ont dit bah, c'est super, ça me fait une chaîne, bah, vas-y. Et il est revenu à Nancy, il m'a dit on fait une chaîne, hein. J'ai dit bah non, c'est ton truc à toi, du tout ça m'intéresse pas. Bon, et c'était l'époque où j'étais au chômage après ne pas avoir obtenu un poste. On pourrait parler des heures de comment on recrute dans les universités en France. Ça n'est pas parfaitement juste, ça n'est pas parfaitement honnête. Et c'est, voilà, bon. Après, peut-être que j'étais pas assez bon, c'est possible aussi, mais j'ai des doutes sur les classements finaux. Bon, donc j'étais un peu dépressif et triste et machin, bon, voilà, vaguement. Et donc, pendant 4 mois, j'ai écrit. Et j'ai écrit les 9 puis 10 épisodes canons. Le 10e n'a jamais été tourné encore, ça fait 5 ans.
D'accord.
On est en train d'avoir un local, on essaie de le tourner avant la fin de l'année. Et c'est le chapitre 23 du livre Quand est-ce qu'on biaise.
D'accord.
Sexe, genre et bicognitif. Ça va saigner quand on va le faire. Parce que les gens vont être essayés de deux côtés et on veut les réconcilier un petit peu en fait. Voir qu'en face, c'est pas que des crétins. Ce qu'ils disent, c'est pas absurde. Mais... Donc voilà, et après, je sais pas si on fera. On aura fini cet arc premier. Et c'était pas prévu que ça marche comme ça en fait. On a sorti la bande-annonce, on a eu 600 abonnés.
D'accord.
Parce que le blog était un peu connu avant, parce que voilà, donc dans les zététiques, on me connaissait un peu, donc il y avait une forme d'attente. On est à 170 000 quasiment aujourd'hui. C'était inespéré il y a 5 ans. Maintenant, du coup, on veut toujours plus. Bien. Ça devient mon métier, parce que l'Aztec est mon employeur. Donc YouTube n'est pas une source de revenus suffisante, mais c'est quand même déjà. Ça assure une sécurité, et écoutez, on peut faire des actions plus ou moins rémunérables, tirer, c'est mal. Bon, je vous rassure, c'est très précaire. Pas autant qu'auteur,
mais pas loin.
Et donc voilà, rien n'était prévu, c'est improvisé complètement. Je suis très heureux de là où on en est. L'assaut a une bonne réputation, des gens veulent rentrer, donc on le fait rentrer au compte-gouttes pour que les gens s'intègrent au projet, qu'on fasse des choses. Et donc j'espère que ça va continuer encore 5 ans, et puis on verra bien après. Mais pour l'instant, on a une échelle de vision sur un an. Dans un an, on sera encore là, dans 2 ans, je ne sais pas. On verra bien. Mais je me sens très utile en fait. Je trouve que ce projet-là. On a des courriers, des gens qui nous écrivent pour nous dire « Vous avez changé ma vie. » Ça ne m'est pas arrivé en tant que scientifique ou en tant qu'auteur encore. les auteurs peuvent recevoir ça. Les scientifiques, c'est rare. Hein. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus valorisant ça que n'importe quoi d'autre. Je veux qu'il est écrit pour dire merci, j'avais des problèmes pour parler avec ma famille, maintenant j'ai les outils pour discuter. Là, je croyais ça, dur comme fer, j'avais peur qu'on m'en sortir, maintenant j'ai compris. Bon, ben voilà, donc on va pas s'arrêter. Et puis, on a une reconnaissance du monde scientifique. Les gens viennent chez nous en étant des chercheurs renommés. On a eu Ken Klein, Guillaume Lecointre, Evin Ayer, enfin des gens. Donc je passe mon temps à parler à des gens intéressants. Mm-hmm. Bah, je suis simplement heureux. Maintenant, je voudrais écrire un peu plus de fantasy. Voilà, pour être parfaitement heureux. Et de science-fiction.
Tu as évoqué la zététique.
Alors,
peux-tu expliquer ce que c'est ?
Zététique, c'est pas un mot, un gros mot, c'est un mot qui vient du latin zétine, qui veut dire j'examine, je cherche. Bon, c'est dans Littré, 1800 et quelques, c'est la méthode dont on se sert pour pénétrer la raison des choses, ce qui veut rien dire en soi. Henri Brock, qui est le prof de physique à la fac de Nice, qui l'a déterré le mot dans les années 70-80, pour lui, c'est l'art du doute. Mm-hmm. Et plus ça va, plus j'aime cette définition, donc du coup je l'ai volé. J'emploie cette définition parce que, en effet, c'est comment se demander si ce que je le sais vraiment. Donc c'est douter.
D'accord.
Et donc la zététique, c'est l'art de se poser les questions à soi et de se protéger contre les énoncés qu'on nous assène et qu'on voudrait peut-être croire parce qu'ils sont vachement séduisants, mais c'est pas parce que c'est séduisant que c'est vrai. Mm-hmm. C'est même pire que ça. Plus un propos est séduisant, plus il a de chances d'être faux. Parce que la réalité n'a pas vocation à nous faire plaisir. La science nous vexe plus souvent qu'elle nous dit vous êtes trop géniaux. Donc la zététique, c'est résister aux tentations des énoncés séducteurs, c'est se poser des questions d'abord sur soi. Avant d'aller critiquer ce que l'autre pense, il faut que je m'examine tout seul, il faut se sculpter. Donc la zététique, c'est ça, c'est en deux temps. Pourquoi je pense ce que je pense et pourquoi je te croirais toi au lieu de penser que tu te trompes ou que tu veux me tromper. Mmh. Une hygiène de l'esprit.
D'accord, très intéressant. Donc tu as parlé que tu avais sorti des livres sur ce sujet-là. Tu as parlé de Quand est-ce qu'on biaise.
Oui. Donc Olivier Cazins, qui est une journaliste, a ouvert une nouvelle maison qui s'appelle, enfin, une collection qui s'appelle Humaine Science, chez la maison Humaine 6, avec des chercheurs renommés, des chercheurs nouveaux, et puis des gens qui très vite autour de la science. Et bien, là, c'était mon rôle. Elle me dit, mais j'aime beaucoup le ton que vous prenez. Est-ce qu'on pourrait faire un livre avec ? Qui dirait non ? Bon. Autant que la collection maintenant, si vous avez regardé un petit peu les noms des gens et la qualité des bouquins, c'est une très très belle collection. Donc je suis très fier. Et donc, les deux premiers livres, c'était moi et Francis Martin sur La Forêt. Donc, on a ouvert la collection. Et donc c'est un livre dans lequel j'ai adapté les scripts de la chaîne. Donc évidemment, si vous voulez que du 100% nouveau, vous serez déçu parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans la chaîne. Mais j'ai réécrit les scripts. C'est pas uniquement le texte que j'ai collé. Parce qu'au départ, j'avais commencé à prendre le script 1. Et à le retranscrire en livre.
Oui.
Je l'ai envoyé, il m'a dit « Oh non, c'est trop triste, gardez les dialogues. » Donc j'ai repris mon script, j'ai remis les dialogues dedans en gardant ce que j'avais rajouté. Donc ça a pris 2 heures. Et puis le suivant, donc, j'ai gardé la forme dialoguée entre Vlad Tapas, qui est le vulgarisateur, et Mandak, c'est la marionnette, qui est là pour le contredire et pour avoir du mauvais esprit. Voilà, donc, j'ai jamais avoir ce rôle-là de celui qui n'est pas d'accord. Et puis entrecoupé dedans, il y a des chapitre nouveau ou bien tiré du blog. Mm-hmm. Et le but, c'est de faire un panorama de tous les biais par lesquels notre raison peut se tromper. Voilà. L'esprit humain marche très bien, on a souvent raison, mais on se trompe souvent. Et la plupart de nos erreurs n'ont pas de conséquences. C'est pas grave d'avoir un préjugé sur les gens en général. C'est pas grave d'avoir une mauvaise impression si en fait il n'y a pas de conséquences dans nos actes par rapport aux gens. Et puis des fois on peut se corriger sans s'en rendre compte. Mais dans la vie de tous les jours et dans la manière dont les gens votent, quand les gens prennent des décisions sur leur santé, on voit que ça a des conséquences graves, voire mortelles. Bon. Quand on découvre à quel point notre cerveau nous trompe, ça nous rend prudent. Et être plus prudent, moi j'ai rien à demander plus aux gens. Qu'ils soient juste plus prudents. Donc, quand est-ce qu'on biaise ? Ne vous débiaise pas, mais il vous rend plus prudent sur vos choix et vos croyances.
Les autres, qu'est-ce que tu as écrit d'autre ? C'est pas le seul ?
Alors, le premier, qui a été publié dans Une journée dans les ténèbres, qui est la collection dirigée par Henri Brock. On va vous dire que Henri Brock, c'était une sorte d'idole quand on a commencé la chaîne. Et maintenant, des fois, je l'appelle et on dit « Salut Henri, comment ça va ?» Et donc, c'est là que je sens que j'ai pas raté ma vie. J'ai pas de Rolex, mais j'ai le téléphone d'Henri Brock dans mon téléphone. Et donc, ça parle de la vie après la mort. Point d'interrogation, une approche scientifique. Qui, en fait, j'ai fait une émission avec Poisson Fécond, qui est un youtubeur à succès, qui avait fait une vidéo sur la vie après la mort. je trouvais que c'était absolument plein d'erreurs sur ce que dit la science. Mais c'est un garçon qui est très ouvert d'esprit. Et il était abonné à la chaîne. Donc on l'a reçu, c'était au début de la chaîne. On a fait l'émission pendant 2 heures. Alors, il avait fait plein de notes, je voulais être prêt pour lui parler. Et de ces notes-là, je me disais, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Soit je fais une série d'articles sur blog, soit je vais faire un petit bouquin. Et j'avais un ami qui connaissait Henri. J'ai essayé, et du coup Henri a dit oui. Et on a sorti le bouquin. Donc c'était au début. Après, j'ai fait cette Néorine d'évolution, qui a été écrit avant en fait. Je l'ai écrit pendant mes puzzles, et en fait ça explique pourquoi, ce qui est ironique avec l'évolution, c'est que le cerveau humain est le résultat de quelques milliards d'années d'évolution, une histoire qui a laissé des traces dans le cerveau. Si on parle avec du son et pas autre chose, parce que évolutionnellement ça a du sens, et le cerveau marche avec des automatismes. Voilà. Et ces automatismes-là sont le résultat de l'histoire du cerveau, et notamment on a des biais cognitifs qui sont le résultat. Et le biais cognitif nous rendent la théorie de Darwin insupportable. Donc c'est comme si l'évolution avait fait un cerveau humain avec pour notice de ne pas croire à Darwin. Très ironique, donc d'où le titre du bouquin.
Alors je me permets de te faire une parenthèse, ça fait plusieurs fois que tu utilises le terme biais cognitif. Est-ce que tu peux nous l'expliquer très rapidement?
C'est des petits défauts de logique. On n'est pas 100% logique. Parfois on va avoir une décision qui n'est pas rationnelle, c'est pas grave, elle va être affective, ça va être très bien. Sauf qu'on croit qu'on est logique. Personne ne veut être irrationnel, sauf quelques personnes extrêmement extrémistes dans leur approche. Donc les biais, c'est les petits défauts de la raison, voilà, qui font qu'on va préférer A à B. On ne sait pas pourquoi, mais on va chercher des raisons et on va en trouver. Et donc les biais, c'est pas des malfaçons, c'est des raccourcis. La plupart du temps, c'est parce que évolutionnairement, il faut penser vite. Quand vous pensez vite, vous évitez la mâchoire du tigre. Quand vous pensez lentement, ça se passe très mal. Donc le cerveau qui pense vite, il a raison de penser vite. Mais aujourd'hui, on est inondé d'informations. Et quand on veut penser vite sur la base d'informations très complexes, on se trompe plus souvent qu'avant. Donc les biais, c'est toutes les erreurs qu'on pourrait faire. Et on ne peut pas ne pas être biaisé. Parce qu'on a tous le même cerveau, on a les mêmes modules dans le cerveau. Donc les gens qui ne sont pas biaisés, ça n'existe pas. Et donc le dernier bouquin, c'est l'évolution, ça marche, qui était le dernier chapitre de l'Ironie de l'évolution qu'on avait retiré, s'il était trop long, du coup je l'ai étendu, et c'est les arguments créationnistes et comment on leur répond. D'accord. Parce que ils n'ont pas que des arguments débiles, ils en ont beaucoup débiles, mais il n'y a pas que ça. Et des fois, ils mettent le doigt sur une complexité, souvent sémantique, parce que la théorie, elle est complexe à expliquer en mots. Parce que le langage humain, il sert à décrire des actions faites par des agents en vue d'objectifs. Et quand on parle ça sur l'évolution, oh, on est créationniste. Donc le langage nous rend créationniste. Donc il faut le déconstruire. Donc il y a un autre bouquin, c'est quoi? Oui, c'est le Connaissez-vous l'homéopathie? Là, tout est dans le titre. Alors, des gens qui soient contre ou pour ne savent pas en fait ce que c'est. Et moi, j'étais plutôt très critique de l'homéopathie. Je me suis renseigné dessus. Et c'est bien, bien pire que ce que je croyais.
Quels sont tes projets d'écriture prochainement?
Finir ce qui est en cours. refaire la suite entre guillemets de Quand est-ce qu'on biaise, donc avec la même maison. Ça devrait s'appeler, je vous le dis,
comme tu veux,
La science des balivernes. Ça va s'intéresser à pourquoi est-ce que les conneries diffusent plus vite que la sagesse et la vérité. Donc il y a plein de chapitres écrits ou en cours, et ça devrait sortir au printemps. Faut que je me dépêche.
Oui, c'est dans quelques mois, le printemps.
Voilà, pour mars. Enfin, ça devrait être fini au printemps, peut-être ouais. Sortir pour l'automne. Après, j'ai un roman dans le même univers que Les Énigmes de l'Aube, avec un truc qui n'a rien à voir, dans un lieu qui était évoqué dans les romans, mais qui n'a pas été vu, prison, au bord du monde. Enfin, c'est pas un monde, enfin bref, une prison très isolée, dans les montagnes. J'aimerais faire un one-man show. Parce que quand je fais des conférences, on m'a dit que je pourrais faire comique. Et j'aimerais aborder des notions un petit peu prendre des notions que les gens aiment bien et montrer à quel point en fait c'est des notions qu'il faut discuter.
D'accord. C'est une sorte de conférence gesticulée, quoi.
J'adorerais m'inspirer de Astier, mais j'ai pas les mêmes moyens, donc il y aura moins de décor. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de science que dans Astier. On n'a pas mieux qu'Astier pour l'instant, donc je vais pas dire que c'est pas bien, c'est super. Mais j'ambitionne de faire ça avec un peu plus de science.
D'accord.
Si j'y arrive.
On va passer au portrait chinois. Est-ce que tu es prêt?
Ah mon Dieu, non.
N'est-ce pas? Si tu devais imaginer l'apocalypse prochainement, pour toi, ça serait quoi?
Par contrat, je suis optimiste. Mon métier fait qu'il faut que je croie à l'intelligence collective. Et elle existe. On est plus intelligent que... Contrairement à ce qu'on peut croire, la foule, alors ça dépend ce qu'on lui demande, mais elle est plus intelligente que les personnes isolées, parce qu'on peut se corriger les uns les autres, etc. Allez vous abonner à Fouloscopie. de Mehdi Mossadegh. Il a passé des 100 000 abonnés. C'est une film qui est formidable. Bref. L'Apocalypse, je ne sais pas, j'ai jamais écrit sur l'Apocalypse. Je pense que l'Apocalypse, elle va être lente. Ce sera plus une agonie qu'une. Il n'y aura pas de crise nucléaire ou de bombe. Parce que les gens qui appuient sur le bouton ont des familles. Et en général, c'est pas des fous furieux dingues. C'est rare. À part Trump, chez Trump, il y a beaucoup plus de protection par les institutions. Donc voilà. Je ne crois pas à un astéroïde. Enfin, vraiment une crise
extérieure.
Voilà, volcanique, astéroïde. Ok, là, c'est la nature qui nous dit merde. Ben là, on est. Je ne crois pas. En revanche, à une décadence, à une décroissance non contrôlée, donc avec des grandes crises qui fait qu'il y a plein de conflits partout qui arrivent, oui. Et peut-être que dans 40 ans, on y sera. Et le climat ne va pas nous aider à aller mieux. Mais je veux faire le pari de l'intelligence. Et jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a un problème, malgré tout, l'intelligence, la science et la technologie a apporté une solution. Il ne faut pas être naïf et se dire qu'on aura toujours des solutions. Mmh. Mais si on n'y croit pas, on ne cherchera pas. Donc moi, je veux être optimiste pour me dire si c'est une solution, on va la chercher. Ouais. Donc je ne suis pas collapsonaute ou collapsologue.
Okay.
Même si il faut les écouter.
Si tu avais un super pouvoir, lequel voudrais-tu avoir?
Moi, j'aimerais aller partout dans le temps, dans le futur, dans l'avenir, et peut revenir.
Ouais.
Parce que voilà, en bas, on parle du chrony, et évidemment, ça dit merde à la logique. Parce que dès qu'on est dans le temps, c'est foutu. Ou alors il faut croire au monde parallèle. Et là, c'est chiant. Parce que du coup, tu sais pas si t'es revenu à la maison ou pas. Donc, j'adorerais pouvoir aller venir dans le même univers. Voilà. Un univers qui bouge pas. Aller parler à Darwin, toi. Aller parler à Galilée. Bon, enfin. Aller lui apprendre le français, après parler avec lui. Ça va être... et le futur, voir si j'ai tort sur l'Apocalypse.
Peut-être. Donc là, tu as à moitié répondu, mais je vais te demander de réfléchir. Dans tout ce que tu as pu lire, voir, entendre, est-ce qu'il y a une planète, une civilisation où tu aimerais aller vivre?
Les Vulcains. Mon côté zététique, même s'ils sont une caricature de ce qui est un sceptique, en fait. Mais je pense que je vais parler un peu hier, j'ai fait une interview. On a assez peu d'utopie positive dans la fiction. En tout cas, comme j'ai pas beaucoup lu, mais Star Trek offre un futur où l'humain a résolu les grands problèmes. Et en fait, c'est rarement cet aspect-là qu'on en avance chez Star Trek, alors que c'est ça le contrat. C'est qu'on vous raconte une histoire dans laquelle il n'y a pas de problème de criminalité, de corruption. C'est un futur très, très, très. Alors, il y a un peu de guerre parce qu'il y a des méchants autour, mais c'est beaucoup plus positif que n'importe quel autre SF qu'on a pu avoir populaire. D'une, c'est très sombre. Donc plutôt le monde de Star Trek, parce que voilà, en tant qu'être humain du 20e siècle, c'est bien un futur désirable, c'est Star Trek, je pense.
Et pour finir cette interview, comme je te disais, c'est toi qui vas pouvoir choisir la musique. Alors dis-moi ce que tu veux.
J'aimerais bien qu'on écoute la chanson donc de Vled et du groupe Cadmium qui s'appelle La Casa de Asterion, qui est inspirée de la nouvelle de Borges. Voilà, parce que c'est une des meilleures chansons du monde.
En toute simplicité.
Non, bah, enfin, voilà. Puis bon, c'est quelque... il vaut mieux partager des choses d'artistes vivants qui viennent d'être connus plutôt que de grands illustres. Genre les Beethoven, super. Mais Beethoven n'a pas besoin qu'on l'écoute. Alors que Red Tabas a besoin qu'on l'écoute et qu'on l'aime. Aimez-le.
Merci beaucoup Thomas pour ton temps.
Merci Pierre.
C'est un vrai plaisir de t'entendre sur Radio Géo 101.5.
À bientôt.
to defend you.
www.radio-g.fr.
Je me coucherai tôt ou tard, mais demain je rêve fort.